je voudrais vous inviter ce matin à ouvrir la Bible dans les psaumes. Psaume chapitre 24. Et donc on rentre vraiment au cœur de ce thème que j'ai intitulé de cette manière. Je ne suis pas allé le chercher bien loin, je l'ai pris simplement dans la parole de Dieu. Que ton règne vienne. Et si ça fait écho à cette prière du Notre Père qui est célébrée, qui est prononcée dans de nombreux lieux, combien c'est important de réfléchir aux conséquences et à toute la portée de ce que signifie cette parole « Que ton règne vienne ». Dans la Bible, le mot « règne » et le mot « royaume » sont identiques. Donc on pourrait transformer ce titre en disant « Que ton royaume vienne ». Et déjà dans le Notre Père d'ailleurs, avant de rentrer dans le psaume 24, déjà dans le Notre Père, il y a deux façons de voir le royaume de Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu, quand on voit toutes les paraboles que Jésus a dit, le royaume de Dieu est semblable à, et vous voyez qu'il y en a de nombreuses paraboles qui commencent de cette manière, mais on se rend compte qu'à chaque fois, il y a une portée différente dans le royaume de Dieu. On peut penser d'abord qu'il y a une portée future. Un jour, Jésus va venir réellement régner sur cette terre. Ça, c'est le royaume à venir. Mais il y a aussi un royaume qui est présent. Que ton règne vienne, ça veut dire donc, Seigneur, permet que ton royaume puisse s'établir sur la terre. Ça veut dire aussi de manière personnelle, viens régner dans mon cœur. Ça veut dire aussi de manière commune, dans l'église, viens régner sur ton église, que l'église soit cette lumière dans les nations. Viens régner sur Israël. Vous voyez qu'on pourrait développer toutes sortes d'arguments, etc., etc. Mais que ton règne vienne regroupe tout cela. Et puis, à un moment donné, Jésus termine la prière en disant « C'est à toi qu'appartiennent quoi ? Le règne, la puissance et la gloire. Mais c'est à toi qu'appartiennent le règne. Le règne, il est déjà à Dieu. Pourtant, on prie que ton règne vienne. Parce qu'il y a plusieurs dimensions différentes de ce royaume de Dieu. Et c'est dans cet aspect-là que je voudrais qu'on puisse rentrer. Mais la semaine dernière, nous voyons déjà que qui parle de royaume parle de trône. On a vu trois caractéristiques du trône de Dieu, un trône de grâce. Dieu aime faire grâce à ses enfants. Il règne avec cette grâce. Il règne aussi avec gloire. Il manifeste sa puissance de toutes sortes de manières, dans la guérison pour quelqu'un qui est malade ou dans la force pour tenir bon malgré la maladie. Il donne aussi, il est assis aussi sur ce trône de justice. Ce matin, je voudrais qu'on rentre encore plus en profondeur en levant les yeux vers le ciel, que Dieu par son esprit permette qu'on puisse voir. Regardez pas dehors les nuages, hein, c'est pas ça dont je parle, c'est les lieux célestes. Et qu'on puisse voir vraiment Dieu qui est assis sur son trône, mais surtout voir encore plus loin, voir jusque dans son cœur. J'aime la Bible. Il y a un chant qui dit ça, j'aime la Bible parce qu'elle me dit, mais elle me dit la Bible que Dieu il a un cœur. Dieu n'est pas lointain, Dieu n'est pas indifférent à mes souffrances. Il a un cœur, il a des sentiments. Et quand on regarde, quand on plonge nos regards dans la parole, on a un aperçu des sentiments qui sont dans le cœur du Seigneur. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il a manifesté le cœur de Dieu. Et quand on regardait Jésus, on se rendait compte de ce que Dieu, le Père, il avait dans son cœur. Regardez dans le psaume 24, il y a une question qui est là, et c'est intéressant quand on commence à réfléchir et à prier que ton règne vienne. Il y a cette question qui est intéressante. Au verset 7, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire ? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. » L'Éternel des armées, l'Éternel puissant dans les combats. L'Éternel qui, quand on est face à nos défis, à nos combats de tous les jours, c'est le Dieu qui est puissant. Il est l'Éternel fort et puissant. Mais vous avez remarqué la question qui est posée. Si on prie que ton règne vienne, il y a cette question qui nous dit « Qui est ce roi de gloire ?» Donc on doit chercher à connaître encore mieux quel est le roi auquel nous voulons obéir. Si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, c'est bien de savoir qui le dirige. Si nous allons dans un pays et qu'on apprend que c'est un dictateur qui est le jumeau d'Hitler, on va peut-être réfléchir avant d'aller dans le pays en question. Je ne sais pas pour vous, moi c'est ce que je ferais en tout cas. Mais quand on regarde à notre roi de gloire, la parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel des armées, et Jésus est le roi des rois, celui qui a montré le roi des rois sur cette terre, alors on est rassuré. Mais regardez, On va lire un autre texte dans Zacharie, chapitre 9. Zacharie, c'est quasiment à la fin de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 9, et le verset 9, il y a une prophétie qui a été donnée par rapport à ce roi qui vient envoyer de la part de Dieu le Père. Zacharie 9, 9. Et quand on entend la prophétie, le contexte, c'est l'allégresse de la joie. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. » On pourrait s'arrêter là. Rien que ça, c'est un sujet de joie. Mais regardez ce qu'il est dit. « Il est juste et sauveur. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Le roi qui vient avec force, avec puissance pour sauver, avec justice aussi pour régner sur la terre ou régner dans nos cœurs d'abord, il vient avec humilité. Il y a un autre chant, je ne sais pas si vous le connaissez, qui parle de cet aspect, qui dit « Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre. Tu es venu pour servir. Notre Seigneur n'est pas venu pour dominer avec orgueil, en imposant ce qu'il voulait faire aux hommes. Dieu, il aurait pu créer tous les hommes comme des robots, en leur mettant à la place d'un cerveau un ordinateur. Vous savez, les ordinateurs, ils font ce qu'on leur dit de faire. Ils peuvent pas faire plus. Ils peuvent faire plus dans le calcul rapide, dans la vitesse de calcul, mais ils font que ce que leur demandent les hommes. Mais Dieu n'a pas créé des robots avec un ordinateur à la place du cerveau. Il a créé des hommes avec un cœur. Et son désir, c'est que notre cœur puisse obéir à Dieu. Son désir, c'est que nous puissions marcher dans ses voies. Et il nous montre l'exemple en étant ce roi qui vient avec humilité. Justement, dans Luc chapitre 19, verset 35, il y a ce passage que je lis pour vous. C'est cet accomplissement de la prophétie, où les disciples amenèrent l'anon à Jésus, sur lequel ils jetèrent le vêtement et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples, il y a toujours des mécontents quelque part. » Mais Jésus répond « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Et ça serait intéressant, ce matin on va pas le faire, de regarder sur la terre que les pierres crient la gloire et la beauté et la louange du Seigneur. Il y a des choses qui sont dans la nature qui nous montrent la beauté. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, c'est pas évident, peut-être d'aller dans une bijouterie et puis de regarder un diamant, un gros diamant. On n'a pas souvent accès à un gros diamant, hein. Mais rien que ça, de voir comment la lumière est capable de pénétrer dans un côté et puis de ressortir de toutes sortes de manières, ça nous montre la beauté de notre Créateur, que lui, il a créé tout cela, il a donné aux hommes aussi l'intelligence pour tailler un morceau de charbon à la base qui devient un diamant. Mais on rentre pas dans ce débat ce matin. On voit que là, le Seigneur Jésus est en train d'accomplir cette prophétie qui a été écrite, rappelons-le, quelques siècles auparavant, hein. C'était pas la veille. C'est pas Zacharie qui allait voir Jésus, ça serait bien que tu prennes un ânon et que tu montes dessus et que tu rentres dans la ville. Non, non, c'était des siècles en avant que ça a été écrit parce que Zacharie, il avait cette connexion avec Dieu qui lui a montré ce qui devait se passer par rapport au roi qui venait, ce roi qui allait venir non pas avec gloire, avec force, non pas pour imposer son règne, mais avec humilité. Rien que la naissance de Jésus d'ailleurs, c'est pas la naissance la plus glorieuse. Et pourtant, il y a quand même eu les anges qui ont chanté, la chorale des anges qui a chanté. Il y a eu des bergers, il y a eu toutes sortes de personnes qui sont venues. Il y a eu des sages d'Orient qui sont venus aussi. Mais Jésus est venu avec humilité dans une étable. Et notre roi, ce qui peut rassurer notre cœur, c'est de savoir que notre roi, il a un cœur d'humilité. Un cœur qui se plaît à servir ses enfants. Non pas qu'on veut dire « Seigneur, tu es à notre service, tu fais ce qu'on te demande ». Mais on sait que notre Seigneur, il sera jamais trop dur avec nous. Il sera exigeant. Des fois, on confond l'amour et la bonté avec le manque d'exigence. Non, non, le Seigneur, il est plein d'amour, plein de compassion, et aussi plein d'exigences. Et ça serait normal. C'est normal que de demander d'un côté les exigences et que de l'autre côté, on puisse avoir un Dieu qui est plein d'humilité. Si dans le royaume de Dieu, notre roi est plein d'humilité, alors qu'est-ce que cela implique pour nous ? Est-ce que ça veut dire que nous pouvons marcher avec orgueil dans cette vie ? Est-ce que nous pouvons dire, voilà, tout ce que j'ai dans cette terre, ça m'appartient, c'est à moi, c'est moi qui l'ai gagné à la sueur de mon front, et c'est vrai, attention, je l'enlève pas. Mais donc, je fais ce que je veux de ma vie. Oui, d'accord. Mais le souffle de vie, qui vous l'a donné ? Qui vous a donné la grâce d'avoir un logement, de naître dans telle ou telle famille, de connaître telle ou telle circonstance dans votre vie pour être dirigé ? Ça vous fait plaisir quand le Seigneur y dirige vos vies ? On est content, non ? Parce qu'on prie, Seigneur, que ton règne vienne, mais quand on voit le Seigneur ouvrir des portes, quand on voit des fois le Seigneur fermer des portes, ça fait plaisir aussi, parce que au moins il nous dit clairement que c'est pas le bon chemin. Mais c'est bien quand on voit la direction de Dieu dans notre vie, que ton règne vienne, ça veut dire, Seigneur, je veux, de manière concrète dans ma vie, voir qu'il y a ton royaume qui est en train d'avancer, que dans mon cœur, tu prends de plus en plus de place, que tu es le centre de plus en plus. Et c'est vrai que ça demande de l'humilité. Il y a des situations dans nos vies qui demandent beaucoup d'humilité. C'est pas facile toujours. Quand on reprend quelqu'un, ça demande de l'humilité d'accepter la correction. C'est d'accord. Si on se trompe et que quelqu'un vient nous voir, un jour, je me souviens, j'étais ado et je suis allé voir mon papa parce que à l'estrade il avait dit une phrase et j'étais pas d'accord. Pourtant, c'était le pasteur, hein. Mais c'était mon papa aussi. Et je trouvais de mon devoir de lui dire, tu vois, t'as dit telle phrase et c'est pas vrai. Tu t'es trompé. Alors, en ado, on sait pas trop si on doit dire ça à ses parents ou pas. Est-ce que c'est de la rébellion? Est-ce que ça n'est pas? Et puis, je suis allé le voir quand même. Et j'ai beaucoup aimé la réaction parce qu'il a dit, c'est vrai, mon fils, tu as raison. Et le dimanche d'après, à l'église, il s'est excusé publiquement. Il a dit, j'ai dit ça. Et mon fils m'a repris, et je vous demande pardon les frères et sœurs, je me suis trompé. Et moi ça m'a fait du plaisir. Alors j'attends que mes fils me fassent la même chose, hein, vous inquiétez pas, ça viendra un jour. Ou si c'est vous, d'ailleurs je prendrai aussi les choses. De toute façon, quand le pasteur qui m'a formé, et il était en train d'expliquer un petit peu le ministère, il m'a dit, à chaque fois que quelqu'un vient te faire une remarque, dis merci à la personne. Même si c'est que ça soit vrai ou pas, que la personne elle soit vraiment dans son tort ou pas, dis-lui merci parce qu'il y a toujours quelque chose que le Seigneur veut t'apprendre de cette situation. Et c'est vrai que ça demande de l'humilité, d'avaler sa salive et de prendre la chose en disant mais c'est finalement il a pas tort celui qui est en face et de reconnaître. Mais est-ce que c'est pas ça qu'on a fait devant le Seigneur, notre roi d'humilité, quand on a avoué nos fautes, quand on a confessé notre péché et quand on a reconnu que justement on n'avait pas fait que des bonnes choses durant toute notre vie passée et qu'on a accepté le pardon de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut que nous démontrions, frères et sœurs. Aspirer à ce qui est humble, nous dit l'apôtre. Aspirer, c'est-à-dire rechercher les choses qui sont humbles. Soyez pleins d'humilité les uns envers les autres. Mais Dieu ne nous demande pas ça pour nous embêter. Il nous demande ça parce que lui-même, il a montré l'exemple au travers de Jésus, qui était plein d'humilité. Est-ce que Jésus n'aurait pas pu prendre le plus beau char en or de l'époque, la Rolls-Royce des chars de l'époque, avec les plus beaux étalons qui venaient de je ne sais où, ou d'Arabie, voilà, les plus beaux étalons noirs qui venaient d'Arabie, avec devant un cortège de personnes avec des trompettes, et enfin, on pourrait imaginer toutes sortes de choses pour la venue de Jésus dans Jérusalem. Non, il a choisi un petit anon. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une prophétie qui parlait d'un roi d'humilité. Le roi que nous avons, c'est un roi d'humilité. Est-ce que nous pouvons nous permettre, en tant que sujet de son royaume, nous-mêmes, de ne pas être des personnes pleines d'humilité et de douceur ? Vous savez, d'ailleurs Jésus le dit très bien à un autre moment, quand il parle de ces personnes qui sont fatiguées, chargées. Il y a des fois, on a des fardeaux, il y a des fois, on est fatigué et chargé parce que les situations sont pesantes. Et Jésus le sait très bien puisqu'il dit « Venez à moi, vous tous !» qui êtes fatigués et chargés. Il dit pas, venez à moi, vous tous, qui avez un problème financier seulement. Non, c'est vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a toutes sortes de problèmes différents pour lesquels on peut venir et s'approcher du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais vous savez la suite? C'est la suite, ça nous parle justement. Regardez, parce que j'ai un cœur qui est particulièrement humble, alors il y a quelque chose que vous devez faire. Si notre roi il a un cœur d'humilité, regardez ce qu'il dit. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc le cœur de notre roi qui est plein d'humilité et de douceur doit nous amener à nous soumettre à lui. Effectivement, si notre roi, je disais tout à l'heure, c'est Hitler ou c'est Pharaon qui était en face de Moïse, si c'est ça notre roi, ben on va avoir un petit peu de mal à se soumettre il va nous soumettre par la force. Mais si c'est un roi plein de douceur, alors naturellement, on comprend qu'on a besoin de lui. Et on comprend qu'on doit lui obéir parce que c'est pour notre bien qu'il nous parle. Nous servons un roi humble et nous devons être nous-mêmes pleins d'humilité. Un autre passage dans Matthieu chapitre 18 verset 23, ça va être une parabole qu'on va lire ensemble. Ça nous parle justement de ces moments où Jésus, il commence ces paraboles en disant « Le royaume des cieux est semblable à un roi ». C'est intéressant de voir quand Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi ». Donc ça va bien nous expliquer quel est le roi qui règne sur ce royaume que Jésus veut établir. Matthieu 18, verset 23, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. » Talents, c'est une monnaie, hein, comme un lingot d'or si vous préférez, 10 000 lingots d'or. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disait « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui lui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Amen. L'image que Jésus a voulu laisser du roi qui règne sur le royaume, c'est un roi qui est plein de compassion. Quand il y a un homme qui vient, qui a une lourde dette, je disais, imaginez que c'est 10 000 lingots d'or. Déjà un lingot d'or, ça serait intéressant, mais 10 000 lingots d'or. Et ça représente, c'est vraiment une bonne image de notre dette par rapport à Dieu. Même si on a l'impression que notre vie, on n'a pas tellement péché, mais par rapport à la beauté et la perfection de Dieu, on trouve toujours quelque chose qui ne va pas. Et qui peut dire ce matin qu'il peut se lever ? J'aime bien lancer ce défi. J'ai jamais trouvé personne qui se l'est levé d'ailleurs. Qui peut dire « Je n'ai jamais menti ?» Alors ? Personne. Il n'y a que le Seigneur qui n'a jamais eu de fraude dans la bouche. Il n'a jamais dit une parole de travers. Alors rien que pour ça, on a une dette par rapport à Dieu. Parce que lui nous demande de ne pas mentir, de ne pas porter de faux témoignages. Ça fait partie des 10 commandements. Et on a tous, il y a celui-là, mais il y en a tellement d'autres qu'on a sûrement enfreint, peut-être même sans le savoir, qui font que devant Dieu on a une dette. 10 000 talents, exactement, ça représentait, un talent ça représentait 20 ans de travail. Un talent, 20 ans de travail, 10 000 talents, 200 000 ans de travail. Donc vous imaginez que quand il est resté en prison à la fin dans la parabole, si on calcule, ça veut dire qu'il est resté 200 000 ans en prison. Ça veut dire qu'il est resté l'éternité, hein, comprends. Et c'est tellement important de comprendre que notre Dieu, il est plein de compassion, il veut pardonner, mais ce qu'il nous demande à nous en retour, lui qui est ce roi plein de compassion, il nous demande d'avoir aussi cette même compassion envers la personne qui est à côté de nous, envers la personne qui va croiser notre chemin. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un roi compatissant ? Parce que nous avons besoin déjà nous-mêmes du pardon de Dieu. Imaginez que pour payer notre dette du péché sur la terre, il fallait qu'on travaille 200 000 ans. Ben, ça serait un peu difficile, parce que même Mathusalem, il ne serait pas arrivé. Lui qui a vécu le plus longtemps dans la Bible, 969 ans, il ne serait pas arrivé à payer sa dette. 200 000 ans. Mais heureusement, par la grâce de Jésus, mort à la croix pour notre péché, en un instant, notre dette est payée. C'est merveilleux. Et qui peut dire, moi je le mérite, c'est normal. Parce que j'ai jamais menti. Ben non, personne, ça marche pas. Il y avait une dame un jour qui a conduit un pasteur qui faisait une mission dans une ville. Et donc elle a conduit ce pasteur auprès de sa maman qui était gravement malade. Et le pasteur vient, arrive, il voit la situation. La dame, elle souffre d'un asthme chronique, quelque chose de très fort au poumon qui l'empêche de respirer correctement. Elle en est au point où elle est coincée sur son lit. Ça fait plusieurs années même qu'elle n'a pas marché. Et il voit qu'elle est en train de mourir à petit feu dans son lit. Alors il commence à lui parler du Seigneur. Il commence à lui parler que Jésus est un Dieu qui veut sauver les hommes et qui veut les guérir aussi, les bénir. Et elle est très ouverte à ce qu'il lui propose, et donc elle choisit de prier avec lui, de dire « Oui Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. » Et elle dit « Oui Seigneur, je veux marcher avec toi. » Et puis, pendant qu'il prie et qu'il commence à réfléchir à prier pour la guérison, le Seigneur lui montre qu'il y a un problème dans son cœur. Le Seigneur lui dit « Cette dame, elle est pleine de haine. » Et lui, il sent comme s'il y a un obstacle, et là, il prie, il y a rien qui arrive, et il sent vraiment que c'est comme si c'était bloqué. Et donc, il lui pose la question, de but en blanc, « Madame, est-ce que vous êtes en paix avec tout le monde ?» Elle dit, « Oui, moi, j'aime beaucoup les gens, j'ai une très bonne relation avec tout le monde. »« Madame, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui vous êtes fâché ?»« Non, non, moi, je vous assure, tout va bien, moi, j'aime les gens, je les accueille à la maison, et pas de souci. » Alors, il dit, il y a quelque chose là, c'est pas normal. Il va voir la fille qu'il a amenée là. Il lui dit, le Saint-Esprit lui montre que c'est par rapport à ses belles filles. Combien de belles filles elle a ta maman? Deux belles filles. Il y en a une qui s'appelle Rosa, Maria Rosa, et l'autre Esther. Alors il retourne voir la dame et lui dit, alors comment sont vos relations avec Rosa, votre belle fille? Ah, Rosa, elle est merveilleuse, c'est un amour, elle vient me voir deux fois par semaine, oh là là, elle vient avec des gâteaux, elle m'amène mes petits-enfants, c'est merveilleux, ça c'est une vraie belle-fille. Et votre belle-fille Esther? Un silence. Votre belle-fille Esther, vous avez entendu madame? Silence. Madame, quelles sont vos relations avec votre belle-fille Esther? Celle-là, c'est une vipère. Je ne la supporte pas. Elle m'a volé mon fils et elle m'empêche de voir mes petits-enfants. Et je ne pourrai jamais pardonner tout ce qu'elle a fait, tout le mal qu'elle m'a fait. C'est ça les paroles qui sortent de sa bouche. Mais il avait mis le doigt, l'esprit l'a conduit pour qu'il mette le doigt là où il y avait un problème. Et il lui dit, surtout ne me parlez pas d'elle et ne me parlez pas de pardon parce que je ne pourrai jamais la pardonner après tout ce qu'elle m'a fait. Je m'en sentirai jamais la force. Alors il commence à lui expliquer, mais madame, vous savez, c'est vrai que quand on attend de sentir pour pardonner, eh bien on peut attendre longtemps. Parce que humainement, on n'a jamais envie de pardonner. Mais là, le pardon que Dieu demande, c'est pas un sentiment, c'est une décision. Je choisis de pardonner. Est-ce que madame, vous êtes prêt à demander au Seigneur qui vous donne la force de pardonner? Vous prenez la décision de pardonner. Et là, avec les dents qui grincent, elle sort un petit oui. Alors vous allez répéter cette prière avec moi, madame. Seigneur, je pardonne à Esther. Seigneur, je pardonne à Esther. Encore, encore. Seigneur, je pardonne à Esther. Et elle répète plusieurs fois. Et petit à petit, le Saint-Esprit commence à attendrir ce cœur qui était endurci par la haine. Les larmes commencent à couler de ses yeux. Elle commence à vraiment pardonner de tout son cœur. Et finalement, elle s'arrête et elle dit au pasteur, « Pasteur, il y a quelque chose qui vient de se passer. C'est comme s'il y a... J'ai une sensation, quelque chose est sorti de ma poitrine et comme si je me sens plus légère, je me sens libre. » Et le pasteur lui dit, « Est-ce que vous avez pardonné à Esther ?»« Oui !» Alors le Seigneur va vous bénir. Il est parti Et dans les jours qui ont suivi, cette dame, que ça faisait 3 ans qu'elle était coincée sur son lit dans la maison, elle a commencé à pouvoir remarcher. Elle a commencé à pouvoir respirer normalement. Elle a commencé à voir la gloire de Dieu se manifester parce que elle a choisi d'obéir à cette parole. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le roi que nous avons, le roi que nous servons, le roi du royaume de Dieu, c'est un roi qui est plein de compassion et qui veut que nous manifestions cette compassion. La compassion et la grâce, ça se manifeste pas à des gens qui le méritent forcément. Mais quand dans notre cœur on prend position en disant « je veux obéir à la parole, je veux pardonner telle personne qui m'a fait du mal, je veux faire table rase du passé », et si la personne derrière, enfin si la personne à qui je m'adresse, elle le veut pas, c'est son problème à elle, mais moi, par rapport à mon roi, je veux que cela se passe. Sinon, si nous ne voulons pas attendre notre, si nous ne voulons pas pardonner notre prochain, Jésus nous dit au travers de cette parabole que nous avons le droit au bout de 200 000 ans. Donc, qui veut attendre 200 000 ans, ça va être difficile. Mais le Seigneur nous invite à manifester cette compassion, à manifester ce pardon. Et je sais que ce matin, il y a quelqu'un, au moins une personne, peut-être même plusieurs, mais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole parce que dans sa vie, il y a une histoire de pardon qui est là, qui fait obstacle. Et le Seigneur l'a dit de manière tellement claire. Pierre, c'est Pierre qui provoque cette situation parce qu'il dit « Mais combien de fois, Seigneur, je dois pardonner mon frère ?» Et le Seigneur lui répond « Vous savez, 70 fois 7 fois. » Et puis là, il dit « Voilà, le royaume de Dieu est semblable à ce roi qui veut manifester son pardon. » Donc, le problème, il vient pas de Dieu. Le problème, il vient de nous qui font obstacle parfois à l'œuvre du Saint-Esprit. Alors oui, c'est dur, oui, ça demande des efforts, oui, ça demande des moments de prière, de combat dans notre cœur. Mais combien c'est bon quand on laisse l'obéissance à Dieu prendre la place dans notre vie. Alors derrière, il y a la bénédiction. C'est automatique parce que c'est Dieu lui-même qui l'a promis, que son nom soit béni. Un roi qui est plein de compassion, un roi qui est plein d'humilité. Voilà le roi que nous servons. C'est aussi un roi d'amour et de vérité. Dernière parabole, elle se trouve dans Matthieu 22. On est toujours dans Matthieu. C'est quelques chapitres plus loin. Et c'est encore cette parabole qui commence avec cette pensée-là. Matthieu 22, verset 1er. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Ils envoyaient d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, à ses affaires, hein. C'est pas du trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, et lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi lui dit « Le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. » Vous voyez qu'à la fois, c'est quelque chose de merveilleux qui se passe. Le royaume de Dieu est comparé à un roi qui fait un festin de noces, un repas de mariage. Quand on pense à repas de mariage, on sait que c'est des bonnes choses qu'on va manger. On sait que c'est qu'il va y avoir une ambiance sympathique et que c'est surtout la joie qui transparaît de ces moments. Et Dieu a choisi de comparer dans sa parole, dans les deux paraboles qui parlent du royaume de Dieu semblable à un roi, il y a cet aspect de la compassion de Dieu et cet aspect de la joie dans la présence de Dieu parce qu'on va ensemble se réjouir de, par rapport à toutes les maux, les souffrances qu'on a vécues sur cette terre. Le Seigneur va compenser dans le ciel de manière extraordinaire par une joie céleste. Mais on voit aussi que de l'autre côté, il y a l'aspect de la vérité de Dieu. L'amour de Dieu d'un côté, la vérité de Dieu. La bonté et la sévérité. L'amour et la justice de Dieu qui font que notre Dieu est parfaitement équilibré dans ce qu'il dit. D'abord, nous voyons qu'il lance une invitation. Alors, premièrement, là, dans cette parabole, on comprend que ce sont les Juifs qui sont mis en question, les premiers à avoir été invités, et certains parmi les Juifs ont refusé l'invitation. Et vous savez, par rapport à l'histoire, que ce sont même les Juifs qui ont crucifié le Seigneur avec l'aide des Romains, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire que, comme l'histoire l'a montré, qu'il faut avoir des mauvais sentiments vers les Juifs, parce que ceux qui ont écrit aussi le Nouveau Testament étaient tous des Juifs. Jésus était Juif. Et il faut pas mélanger toutes sortes de choses, sinon on vous appelle pas à avoir de la haine contre qui que ce soit, mais à avoir de l'amour. Mais par contre, ces personnes qui ont fait couler le sang du Seigneur, en disant « crucifie, crucifie-le !» À un moment donné, Dieu a fait en sorte que ce sang qui a coulé retombe sur leur tête. La ville de Jérusalem, le temple a été détruit, aujourd'hui il reste qu'une portion du mur des Lamentations qu'on connaît. Mais la ville a été détruite, les Israélites ont été déportés pendant des milliers d'années, tout ça parce qu'ils ont crucifié le Seigneur Jésus, le roi d'humilité. Ils n'ont pas eu le discernement de voir qui était ce roi-là. Pourtant, ils connaissaient la loi par cœur, mais ils n'avaient pas assez de communion avec Dieu pour comprendre que c'était le plan de Dieu de passer par ce chemin. Jésus ne voulait pas venir avec gloire cette fois-là, mais avec humilité. Et il nous appelle à réaliser que son royaume, c'est comme ce festin continuel. Et dans le ciel, il y aura quelque chose de merveilleux. Le repas des noces de l'agneau, comme nous dit la parole, ce sont des expressions un petit peu bizarres, mais un temps de joie, un temps de grâce dans le ciel où on sera consolé de tous nos maux. Mais sur la terre, nous voyons que nous devons répondre à l'invitation de Dieu d'abord. Nous devons répondre à cet appel d'amour que le Seigneur nous lance. Et si nous sommes sérieux ce matin avec le Seigneur, si dans ces moments nous sommes des auditeurs attentifs, dans notre cœur nous entendrons la voix du Saint-Esprit qui crie encore l'amour de Dieu, qui crie et qui nous interpelle à être réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais au contraire, ouvrez votre cœur. Ce qu'on a chanté tout à l'heure. Quand je t'ouvre mon cœur, c'est là que je te vois. Si je croise les bras, je dis, j'attends de voir ce que le Seigneur va faire pour moi. Non, Seigneur, je veux croire que tu es un roi d'humilité, de compassion, un roi qui est aussi plein d'amour. Tu veux que je sois en communion avec toi. Le temps du repas, c'est un temps de communion, c'est un temps de partage. Si quand on mange sa gamelle tout seul, ça nous est tous arrivé un jour, moi j'étais à l'usine, des fois je mangeais ma gamelle tout seul, j'avais que 5 minutes pour manger, alors on mange ça vite fait, c'est pas très intéressant. Manger 3 faillots là en vitesse, boire son petit verre d'eau, c'est pas intéressant. Et puis quand on a le temps, quand on invite des amis ou des frères ou des sœurs et qu'on partage, des fois le repas, on a l'impression qu'il finit jamais. On met 1 heure à manger le dessert, on arrive à... c'est l'heure de manger déjà du soir, mais on a pris du temps de qualité, des moments importants, que Dieu veut que nous vivions avec lui. Jésus, à un moment donné, il tape à la porte d'une église et il veut rentrer dans cette église pour souper avec elle, pour prendre un temps de qualité. Alors bien sûr, c'est un repas spirituel auquel le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à nous nourrir de cette sainte parole, à nous satisfaire, à nous laisser rafraîchir par la présence de son Saint-Esprit. Et nous croyons que toutes les fois où nous venons dans la présence du Seigneur, c'est ce qui se passe. Toutes les fois où même personnellement dans notre chambre, nous fléchissons le genou et nous prions notre Dieu, c'est ce qui se passe aussi. Toutes les fois où nous prions les uns avec les autres, ici ou dans d'autres lieux, c'est ce qui se passe, parce que c'est le projet de Dieu. Il nous lance cet appel d'amour pour avoir un temps de partage et de communion avec nous. Mais il nous dit aussi qu'il y a des conditions. Est-ce que Dieu a le droit d'être exigeant? Est-ce que celui qui nous sauve a le droit d'être exigeant? On est d'accord quand c'est les pompiers qui viennent nous chercher parce qu'on a eu un problème, un incident, un accident par exemple, mais qu'on est encore à peu près sur nos jambes, et que les pompiers viennent nous chercher, puis qu'on commence à regarder le camion, à inspecter en détail. Je trouve qu'il n'est pas très confortable votre camion. Votre fourgonnette là, moi je voudrais une voiture de luxe avec les sièges en cuir, massant et chauffant. Sinon je monte pas et je vais pas à l'hôpital. Qui c'est qui ferait ça avec les pompiers? Personne viendrait, ça viendrait à l'idée de personne, parce que le plus important dans ces moments-là, c'est qu'on soit soigné, et pour savoir s'il y a quelque chose de grave ou pas. Et le Seigneur est venu pour nous sauver, et il a un plan d'amour. Oui, il y a de la joie, oui, il y a la grâce, mais il y a un plan d'amour et de salut pour nous amener à être délivrés du péché. Est-ce qu'on va se permettre de dire, non Seigneur, tu vois, là tu me demandes ça, mais c'est pas assez confortable. Moi je préfère faire les choses comme ça. Tu me demandes de prier tous les jours. Ouais, mais Seigneur, moi j'aime bien passer du temps devant la télévision ou sur Internet. J'ai pas le temps de prier. Qui pourrait se permettre de dire ça? Et pourtant ça, par contre, on le fait. Mais souvenons-nous qu'on a un roi plein d'amour, mais un roi plein de vérité. C'est pas nos conditions qui nous permettent d'aller au ciel, c'est quand on fléchit devant la parole de notre Dieu. Il y a un homme qui en a fait l'expérience dans cette parabole, il est venu avec ses habits. Il s'est dit, mais après tout, mes habits, ils sont pas si mal. Peut-être qu'il avait un costard, hein. C'est pas à l'époque, je pense pas que c'était un costard-cravate, mais il avait des beaux habits. Sauf que dans les noces, on revêtait un habit de noces particulier. Et lui, il n'avait pas revêtu cet habit. Il a accepté l'invitation, mais il n'en a fait qu'à sa tête. Le résultat, c'est qu'il s'est retrouvé dehors. Est-ce que Dieu est dur? Non. Il est exigeant, mais c'est à cause de sa justice. Mais aussi, il est plein d'amour, parce que des méchants et des bons sont rentrés. Ça ne veut pas dire qu'on ira tous au paradis, comme on l'entend des fois. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire des gens qui avaient une vie vraiment une vie corrompue par le péché, qui étaient dans toutes sortes de choses. Et Jésus mangeait des fois avec des prostituées, avec des gens qui trafiquaient avec l'argent. Et donc ceux-là, ils étaient vraiment loin de Dieu, mais d'autres, ils étaient aussi pas tout près de Dieu. Pourtant, ils étaient religieux, ils avaient une bonne apparence, donc ils semblaient bons aux yeux des hommes, mais méchants et bons, qui ont accepté l'invitation et qui ont choisi de revêtir le vêtement blanc que le Seigneur donne, ils ont été accueillis auprès du Père. Nous avons un roi qui veut nous accueillir dans sa présence. Esther, quand elle s'approchait du trône du roi, vous savez qu'il fallait qu'elle fasse toutes sortes de choses, et elle était même pas sûre que le roi accepte de la recevoir, parce qu'il l'avait pas convoqué. À l'époque, c'était dur, c'était comme ça. Si le roi convoque pas, et qu'il tend pas le sceptre, eh ben, la personne, elle risque même de mourir. Mais quand on s'approche de notre Seigneur, roi d'humilité, roi de compassion, notre roi d'amour et de vérité, il nous accepte dans sa présence. Est-ce que nous allons être de ceux qui disent « Seigneur, je veux me soumettre à ton autorité. Je veux faire ta volonté. » Je crois qu'on a bien répondu à cette question. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel. L'Éternel fort et puissant. Oui, que ton règne vienne, ça veut dire que Jésus prenne la place dans mon cœur. Et je voudrais qu'on puisse fermer les yeux maintenant. On va prendre ce temps de Sainte-Cène aussi.